Est-ce que... Ah, ok, très bien. On est en train d'enregistrer. Let me got it. Ok, donc les types se sont souvenus constamment et ça prend du temps. C'est-à-dire que pour les applications numériques dans Python, on est obligé d'utiliser les bibliothèques écrites dans d'autres langages, dans le langage C essentiellement, et enveloppées en Python. Donc, par exemple, les vecteurs, les matrices de NumPy sont écrits dans un autre langage de programmation. Donc, en principe, cette solution peut être appliquée à n'importe quel langage de haut niveau. On peut avoir cette solution type tandem, langage de haut niveau, suivi des bibliothèques qui sont développées en langage de bas niveau avec un interfaçage. Le problème de cette approche, c'est le fameux problème de deux langages, que soit bien on fait tout le développement d'un langage de haut niveau sans toucher des bibliothèques déjà préexistantes, mais dans ce cas-là, on reste prisonnier des développeurs de cette bibliothèque. Donc si on a besoin d'autre chose qui est déjà présente dans ces bibliothèques, soit bien on le développe dans le langage de haut niveau et on paye le prix de ralentissement de code, soit bien on met les mains dans le cambouis et on passe de Python à C et fait des modifications dans les bibliothèques. Donc c'est un des points, une des motivations, des raisons d'être de Julia, c'était la résolution de ce problème de langage. Donc pouvoir faire tout le développement dans un seul langage. Éventuellement, comme DBKey, on peut utiliser les bibliothèques préexistantes, mais le plan magistral de développement Julia est de réécrire au fur et à mesure les implémentations en Julia pure pour les rendre plus solides. Ok, donc c'est le traitement des types qui distingue Julia de tous ces langages. De Python, c'est très nettement, parce que dans Python, les types sont constamment oubliés, se souvenez, donc l'utilisateur ne les voit pas vraiment. En MATLAB, les types existent aussi, mais l'histoire des types en MATLAB est aussi bizarre, parce qu'au départ, en 84, il n'y avait pas de type. Hein, il y avait un seul type qui était... qui existait, c'était le type double. Donc le type double était servi sous toutes les sauces. Par exemple, pour indexer des tableaux, des matrices, les indices avaient le type double. Bon, la raison, évidemment, pour cela était que à 84, les entiers étaient sur certaines plateformes étaient encore à 16 bits. Donc pour adresser des grands tableaux, il fallait de l'espace. Et donc, les indices, le double, vous permettent d'avoir 52 bits pour matrice. Donc, c'est largement suffisant pour adresser les tableaux, même pour les ordinateurs de nos jours. Mais c'était une solution, évidemment, loin d'être élégante. Okay? Donc, il y avait le type double, il y avait le type complexe, qui, avec le passage entre les doubles et complexes, qui était complètement opaque pour l'utilisateur, c'est-à-dire... Vous manipulez les nombres et du coup, votre fonction change le résultat et passe d'un double en complexe. Vous pensez à utiliser ce double dans les opérations de comparaison et ben, du coup, vous ne pouvez plus parce que c'est passé en complexe. Donc, des situations comme ça sont la monnaie courante en MATLAB. Ensuite, les types ont été ajoutés, d'autres types ont été ajoutés, des types composites, des tableaux cellulaires, des structures, mais toujours avec des solutions bizarres. Par exemple, pour indexer les tableaux, on utilise toujours les doubles. On ne peut pas, par exemple, si on peut avoir des variables de type entier ou entier non signé de 32 bits, on ne peut pas les utiliser pour indexer les tableaux. Donc, MATLAB traîne donc, toutes ces casseroles qui se sont attachées au fur et à mesure de son développement. C'est un très grand langage, mais il a de l'histoire et ce n'est pas forcément une histoire heureuse. Bon, je ne dis pas grand-chose de route. L'histoire des types, normalement, c'est la même histoire que dans C++, seulement que C++ en soi n'est pas un langage spécialement fait pour le calcul numérique. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne vont tout simplement pas. Par exemple, tout le monde sait que dans C et C++, les manipulations de tableaux sont plus lentes que dans Fortran, à cause de ce que le compilateur ne peut pas faire des idées que deux pointeurs pointant sur deux blocs de mémoire, que le bloc pointé par deux pointeurs ne se croise pas. Donc, il n'y a pas de notion de. Comment dirais-je? Dans le langage C, dans C++, vous avez un passage transparent entre les tableaux et les pointeurs. Chaque fois quand vous passez un tableau dans une fonction, c'est le pointeur qui est passé. Et l'information que les blocs ne se chevauchent pas est perdue. Alors, cette information peut être utilisée pour accélérer l'exécution, par exemple pour remplacer les copies élément par élément par les copies de blocs, le bloc entier. Mais ce n'est pas possible en langage C, certaines optimisations sont interdites. Et tout ça, tout cet héritage, évidemment, freine le développement de tout ce qui est basé sur C, C++ dans le monde numérique. OK. Voici un peu la situation de Julia dans ce paysage. Alors, qu'est-ce que Julia nous offre comme un langage de programmation si on veut entrer dans la programmation Julia? Bah, déjà, on a plein de types prédéfinis. Okay? Tous les types numériques, des entiers, des flottants, avec les fonctions utilitaires qui vous permettent à contrôler la précision des erreurs de rendu, etc., sont déjà présents dans Julia. Vous avez évidemment des types chaînes de caractères et des caractères en Julia qui les caractères sont Unicode, donc comme tout le langage de programmation moderne. On a au niveau basique de langage des tableaux. Donc, je vais écrire ça ici, cette énumération. Donc, il y a les types numériques. Okay. Il y a tout ce qu'on découvre quand on commence à programmer en Julia. Il y a les chaînes de caractères. Et donc les caractères, il y a des tableaux denses, donc tableaux denses. Il y a des tableaux associatifs, des dictionnaires. Alors, quoi d'autre? Ce sont les types prédéfinis avec lesquels on peut travailler tout de suite. Ensuite, vous pouvez définir vos propres types, des structures modifiables. Comment on les appelle là, les structures? Mutable, immutable, donc les types utilisateurs. Défini. L'utilisateur. Vous pouvez avoir donc des structures. Vous pouvez avoir des structures mutables. Okay. OK, alors, en plus de ce type que vous découvrez tout de suite, la bibliothèque standard vient avec plein de fonctions, donc des fonctions numériques standard, fonctions mathématiques standard. Ça vient aussi avec les macros. Donc, les macros, c'est l'aspect très spécial de Julia. Parce que Julia est un langage de programmation homo-iconique. C'est-à-dire que les expressions de langage, les fonctions, les structures, toute expression qui peut être compilée peut aussi être représentée par les moyens de langage. Donc, ça correspond à un certain type de données qui peut être analysée, qui peut être modifiée, etc. Et cet aspect homoiconique, c'est-à-dire que le langage est représentable, le syntaxe de langage est représentable dans le langage proprement dit, ouvre la possibilité de pré-processing assez intéressante. Vous avez vu peut-être la vidéo sur le macro que j'ai mis sur le site. Valérie a mis sur le site, c'est comment on peut par exemple générer automatiquement une suite des fonctions à l'aide des macros. Donc, Julia vient avec l'ensemble des macros prédéfinis, très utiles pour par exemple le pré-processing, pour mesurer le timing d'exécution d'un programme, pour analyser le code compilé. Vous avez vu l'usage de ces macros dans les vidéos pour visualiser le code natif, le code typé, etc. Vous avez des macros pour le profiling, pour visualiser là où la fonction passe plus ou moins le temps, et ainsi de suite. Il y a certaines fonctionnalités qui auraient dû être réalisées par... Comment dirais-je, par le langage proprement dit, par exemple les tableaux statiques, a été réalisé par macro parce que ça, c'est une solution plus flexible. Et on n'a pas besoin de modifier les fondamentaux du langage pour contourner certaines rigidités de sa structure actuelle. Donc, les tableaux statiques, Static Array, ça en donne un joli exemple. C'est-à-dire la manipulation des tableaux statiques sans macro est assez lourde. On a besoin de se souvenir tout le temps de dimensions de ces matrices, mais avec les macros, ça devient très élégant. Donc, voilà, cet univers des macros qui est aussi fourni à l'utilisateur. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses que j'ai oublié de dire? Ben, je crois qu'on a fait un peu un tour de tout. Hein, s'il y a des oublis, on va revenir. OK, donc avez-vous des questions sur ces généralités, sur cet aspect général de Julia? J'imagine que vous l'avez déjà vu, hein, donc si vous avez une certaine expérience avec Julia. Sinon, on peut passer à autre chose. Dites-moi.
De mon côté, j'ai aucune question.
Aucune question. OK. Bon, ça va? OK. Alors,
J'ai une question au niveau
oui, vas-y.
des opérateurs mathématiques. J'ai utilisé un package de Python qui s'appelle SimPy, qui permet de faire par exemple des dérivés de fonctions. Est-ce qu'on a l'équivalent en Julien?
Pour les dérivés de pour les dérivations automatiques, c'est ça?
Oui, par exemple, ou des
Oui, ça. Ok. C'est juste que le son de votre micro est très, très, très bizarre. Hein. Donc, mais si j'ai bien compris la question, c'est la question de la dérivation automatique, c'est ça? Alors, si la question concerne ça, dans Julien, vous avez un type spécial qui remplace les types flottants. Grâce à un caractère de programmation générique, hein, Julia, alors là, oui, c'était une chose que j'ai oublié de vous dire, hein, je le dirai tout à l'heure, donc c'est sur quoi Julia est basée essentiellement, cette idée de programmation générique. Alors, grâce à la programmation générique, si nous avons une fonction qui est écrit un bon style Julia, c'est-à-dire sans que le type numérique soit pré-spécifié. Okay? Par exemple, on formule notre fonction en utilisant en déléguant les appels aux autres fonctions qui existent déjà génériquement. Par exemple, j'écris une fonction, ben, je ne sais pas, x va vers x fois exp de x, okay, sans préciser le type. Alors, si l'opérateur de multiplication et si l'exponentielle sont définis pour mon type, je peux évoluer cette fonction tout de suite. D'accord? Donc, il existe un type spécial. Il y a un package dont je ne me rappelle pas le nom qui définit un type qui, étant manipulé, représente à tous les comportements d'un nombre flottant, mais en même temps, ça garde une quantité infinitésimale avec, c'est-à-dire ça représente une extension, donc c'est pas un corps, hein, c'est un anneau de R avec la base de coefficients de R avec un paramètre infinitésimal, c'est-à-dire c'est juste l'anneau R de X divisé par l'idéal engendré par x carré. C'est-à-dire que dans cet anneau, les nombres ont l'allure a plus b, hop, a plus b fois epsilon, avec la condition que epsilon carré égale 0. Okay? Maintenant, si je mets cette expression-là dans cette formule, je calcule la valeur de f de x plus epsilon, le résultat sera f de x plus f prime de x fois epsilon. Automatiquement, c'est le fait mathématique qui le garantit. Donc, nous prenons ce type-là qui réalise cette simple algèbre et nous le mettons dans n'importe quelle expression qui est écrite dans le bon style juliannesque, on va calculer la dérivée tout à fait automatiquement. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais ce type existe, ça s'appelle la dérivation automatique et ben je crois qu'il doit y en avoir plusieurs packages qui le proposent tellement cette fonctionnalité est simple. Y a-t-il d'autres questions?
David, peut-être écris et puis je lirai tes questions parce que sinon on entend vraiment très très mal.
C'est vrai, c'était pas compréhensible, donc c'est mieux peut-être que tu le tapais dans le chat. Sinon, entre-temps, il y a ce qu'il y a d'autres. Interrogation. Attendez, je vais
Pavel, c'est écrit dans le chat. Dans le chat, et la remarque, c'est oui. SymPy exécute aussi des expressions littérales.
Oui, ils exécutent aussi des expressions littérales. Donc, attendez, je vais juste vous renvoyer un lien sur le bouquin de programmation générique. Qui explique l'idéologie. Voilà, donc il y a un lien, je vais le mettre dans le chat. C'est un lien sur Amazon. Je ne suis pas le fan de Jeff Bezos, mais c'est le premier lien qui sort. Au cas où, moi j'ai un PDF de ce bouquin, donc ça n'a rien à voir avec Julia, hein. C'est un peu un programme philosophique d'un style de nouveau style de programmation, pas si nouveau que ça. Donc, dans ce bouquin de Stepanov et Rose, on explique l'idée de ce que c'est que la programmation générique qui est la base de philosophie Julia. Donc, si vous voulez comprendre sur le fond de quoi Julia, sur quoi Julia est basée, c'est ce texte-là qui est à lire, d'accord. Et sinon, la chose que le plus proche qu'on trouve dans d'autres langages de programmation, c'est les templates C++. Donc, la programmation générique en Julia est très proche à l'utilisation des templates C++, qui en soi n'est pas une mince affaire. Vous savez qu'on a démontré récemment que le calcul de template est l'algorithme de calcul de template est équivalent à une machine de Turing générique, c'est-à-dire que on ne peut pas prédire, par exemple, si tel ou tel template peut être résolu en temps fini. Donc en soi, c'est un problème universel de l'algorithmique. Et donc les templates représentent un langage de programmation en soi. C'est-à-dire, il y a de l'histoire derrière. OK. Y a-t-il d'autres questions sur ces aspects génériques? Sinon, on peut passer à des choses plus pratiques. Donc, il y a quelqu'un oui, qui dit qu'il y avait un peu de souci avec VS Code. C'est bon maintenant, c'est vraiment bon, il n'y a pas de choses à régler. OK. Bon, est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que j'ai
l'impression. Oui, on t'entend.
Oui, c'est bon. OK. Alors, ce qu'on va faire maintenant, ce que je vous propose à faire, je vais partager mon VS Code. Bon, j'ai préparé une liste de simples questions pour voir un peu comment ça marche avec les types. Donc, alors, là, j'ai partagé mon VS Code. Okay, donc là, le partage est effectif. Donc là, je vais inviter les autres dans mon VS Code. Copie to clipboard. Voilà. Donc là, le lien est posté dans le chat. Normalement, avec ce lien, si vous ouvrez ce lien, donc j'accepte read-write. Pour tout le monde. OK. Et je vais ouvrir un nouveau fichier. Session 705/2021.gl. OK. Accept. Read-write. Je ne sais pas si j'ai besoin d'accepter tout le monde. Voilà, donc vous pouvez commencer à écrire le code dans mon VS Code. Alors, ce que normalement, je vais aussi lancer le repo et donner l'accès au terminal. Share terminal, read-write. Hop, j'ai besoin de repo plutôt que de terminal. Terminal. Non, c'était peut-être pas une bonne idée. Alors, share terminal. Start new terminal. OK, donc là, je vais lancer repo. Alt, J, prompt. Voilà, donc là, c'est repo. OK. Alors, donc, ce que je vous propose à faire, hein, je crois que vous pouvez taper le code afficher les types des différentes valeurs. Donc, accept read-write, accept read-write. Alors, je crois que vous pouvez taper des choses dans REPL, essayer. Guest user, essayez de taper les choses dans mon REPL pour exécuter dans le REPL. Accept, read, write. Normalement, vous devez voir, si vous ouvrez les choses dans le navigateur, vous devez voir les deux choses, la session REPL en bas et le fichier en haut qui, pour l'instant, ne contient rien.
Je crois qu'on ne peut pas utiliser le REPL tant qu'on est anonyme.
qu'on ne peut pas. Attends, attendez, je vais voir. On ne peut pas utiliser les REP tant qu'on est anonyme.
Je ne suis pas sûr, mais c'est l'erreur qui m'a sorti.
Attends, et comment faire pour ne pas être anonyme?
Mais il faut avoir un compte GitHub ou Microsoft. Je ne suis pas sûr que ce n'est pas possible.
Oui, mais... peut-être pas. Peut-être on peut juste voir des choses d'un REP. OK. Bon, alors, mais vous avez tous vos VS Code vous-même. D'accord? Donc, ce que je vais faire, alors, dans ce cas-là, je vais faire les manipulations moi-même. Et puis, vous me dites... Est-ce que le résultat est complètement attendu ou ça nécessite des commentaires? Okay. Donc là, pour l'instant, IN64, c'est tout simplement le type, et je dis accept, read, write. IN64, c'est un type entier basique. C'est un type entier de base de mon plateforme, parce que la plateforme a 64 bits. Si vous voulez connaître l'information, vous pouvez taper dans repo, peut-être pas dans le mien si c'est read only, le point d'interrogation. Si je tape point d'interrogation, je passe dans le mode help. Si je tape backspace ou retour arrière, je reviens dans le repo. Donc là, je passe dans le mode help et je peux demander qu'est-ce que c'est que int64, c'est un entier signé. Okay. Alors, type of 0x00. Type of...
Pavel, tu devrais oui. Partager ton écran aussi parce que ce serait mieux.
C'est pas tout le monde, pas tout le monde arrive à ouvrir les.
Non, mais parce que comme j'enregistre, ça serait plus.
Ok, d'accord. Enfin, ok. Alors oui, tu fais l'enregistrement. Ok, je vais partager mon VS Code. Bien. Alors, dans ce cas-là, j'enlève le partage de XornoPP. Et je fais le partage de VS Code. OK. Voilà. OK. Donc, là, comme il n'y a pas grand-chose en haut, je vais mettre ça comme ça. Et donc, là, ici, on voit tout ce qu'on a tapé. Donc, j'ai passé dans le mode d'aide en ligne. On a vu que le type IN64... est un type signé. Est-ce que tout le monde comprend cette écriture-là? IN64 inférieur 2.signed. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est clair? Bon, allons voir. Signed. C'est un type abstrait qui regroupe tous les entiers signés. Okay. Donc, l'histoire de système de type de Julien, on va le découvrir peu à peu, parce que c'est un énorme éléphant dont on voit que pour l'instant que la trompe. Mais on peut commencer déjà à entrevoir des choses. Donc, la différence entre les types IN64 et signed est que le type... IN64 est un type concret, le type signed est un type abstrait. Donc, si je fais size of int64, c'est quelque chose qui est concret, qui a la taille. Si je fais size of signed, ne marche pas. Il n'y a pas de type, il n'y a pas de taille définie pour ce type, c'est juste un regroupement de tout ce qui peut représenter les entiers signés. D'accord. OK. Continuons avec les type of. Type of 42.0. Float 64. Alors, float 64, par défaut, les valeurs littérales avec virgule numérique sont des types float sautant de double précision. Donc, le type float 64, c'est ce qui est le plus standard. C'est un type standardisé par UEEE. Et donc, cette standard est réalisé en dur dans l'architecture des processeurs. Il y a rien de soft derrière. C'est juste un type standard avec la matrice 52 bits, exposant 11 bits et un bit pour le signe. Si je veux préciser, si je veux créer quelque chose de flottant, je crois que de précision simple, ah non, c'est pas comme ça. Bon, on peut toujours faire ça de cette façon, mais c'est pas spécialement.
Faut mettre un 0 après le F. F0.
Comment? F0, c'est ça? C'est ça, ok, j'ai oublié. Voilà, c'est ça le format pour les flottants littéraux. Absolument. Okay. Mais on peut toujours faire la transformation de type. D'accord. Ok, alors, l'histoire des types signés et non signés, les valeurs littérales entières, même s'ils sont positifs par défaut, vous donnent des types signés. Si vous voulez spécialement de type non signé, il faut les entrer en hexadécimal. Donc, c'est juste une convention. Okay. Vous pouvez toujours entrer, par exemple, faire un unsigned de 42 et ça vous affiche quoi? Ça vous affiche un entier à 64 bits non signé. Vous voyez bien le nombre de chiffres qui représente le nombre de 42. Pourquoi 64 bits? Parce que le type qu'on a passé dans le constructeur de unsigned, un constructeur, c'est pas un constructeur, c'est une fabrique qui fabrique le type approprié pour la valeur qui lui est passée. Donc, comme la valeur est passée à 64 bits, on nous génère en 64 bits. Okay. Si je fais int 8 de 100, le résultat sera juste un int 8. Ok, donc les types numériques basiques, on les a vus à peu près. Les flottants, les entiers. Il y a des types spéciaux qui sont des chars. Okay, donc là, on peut faire ça. Par exemple, le type Unicode qui prend juste un octet. Donc, je peux créer une variable. Okay, je peux faire type of. Okay. C'est bien char, okay. Size of A, 4 octets, parce que les caractères individuels sont encodés en Unicode de 4 octets chaque symbole. Par contre, si vous encodez une chaîne de caractères, par exemple, size of hello, nope. Là, la taille sera 5 octets parce que dans les chaînes de caractères, les Unicode sont encodés de façon économique. Okay? Si on peut le faire en restant dans le code page de la table ASCII, c'est un octet par caractère, mais on peut évidemment avoir des caractères Unicode, par exemple Hello Pi. Hein? Et là, la taille, c'est 9 octets, donc 7 octets pour cette partie-là, plus 2 octets pour représenter la lettre pi. Okay. Donc, c'est ça, c'est comme ça que comment les chaînes de caractères sont réalisées en Julia. Ils sont réalisés justement comme des fonctions partielles hein, qui renvoient pour chaque adresse dans une chaîne de caractères potentiellement une valeur. Pour, si on tombe au milieu d'une lettre qui est représentée par un caractère Unicode, alors c'est une exception. Mais ça permet une représentation très, très concise des chaînes de caractères. OK, alors, flottant entier caractère, on les a vus. Dans les applications numériques, a besoin très, très fréquemment des complexes. D'accord. Donc, les complexes sont les valeurs littérales pour les complexes viennent avec le symbole spécial im. Donc, im s'affiche im. Qu'est-ce que c'est que im? Im au carré, ça fait moins 1 plus 0 im. Donc, c'est une unité imaginaire. Si je crée une variable, notez bien que la variable a en ce moment existe, hein, c'est un caractère. Si je tape a égale 2 plus 3 im, qu'est-ce qui se passe? A, maintenant une nouvelle valeur, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un lien, un nouveau lien entre l'ancien symbole. Donc, dans notre espace de travail, nous avons un symbole A qui avait un lien avec l'ancienne valeur qui était un caractère. Et maintenant, cette ancienne valeur est abandonnée. On ne pose pas la question où il se trouvait, parce que pour les valeurs non mutables, cette question n'a pas vraiment de sens. Okay? Donc, contrairement aux autres langages de programmation, où on peut précisément dire cette variable se trouve dans tel endroit, dans la pile, ou dans le tas ou dans le segment de données, par exemple, dans Julia, la question où se trouve une valeur n'a le sens que pour des valeurs dites mutables, pour des types mutables. Pour les types non mutables, c'est laissé à la discrétion de la machine virtuelle Julia. C'est sujet aux optimisations, donc il vaut mieux ne pas poser la question où se trouve la valeur. La variable se trouve dans l'espace de travail, la valeur quelque part, et quand vous faites une affectation, ce qui se passe, c'est que vous créez le lien entre la variable et la valeur. Alors, quel est le type de la valeur? Donc, les types sont attachés aux valeurs, pas aux variables. Je fais type of A. Donc, je ne calcule pas le type de la variable, je calcule le type de la valeur. Et le type de la valeur, c'est un complexe de int64. Notez bien que complexe est un type un peu spécial. Complexe est un type un peu spécial. Pour voir cette idée, regardons le type de type. Qu'est-ce que ça m'envoie? Type of int. Data type. Donc, vous notez bien que dans Julia, non seulement les valeurs numériques, les variables peuvent avoir des valeurs numériques, les valeurs chaînes de caractère, mais ils peuvent aussi avoir les valeurs de type. Les types sont aussi représentés comme des valeurs dans le système de valeurs de langage. Okay. Et le type de ces valeurs, c'est un autre type, un type spécial, data type, pour la plupart des types, mais pas pour tous. Il y a des types qui ont des valeurs, qui ont les types sont différents de data type. Alors, est-ce que vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous avez des questions à ce niveau? Type of int. Ça ne pose pas de problème, cette idée que le type peut avoir un type. Ça va?
Oui, c'est bon.
C'est bon. Alors, type of complex. Union all. Alors, est-ce que quelqu'un peut expliquer ça? Qu'est-ce que ça veut dire union all? Ou c'est plutôt un mystère? Bon, alors, il y a des types concrets. Data type, c'est un type d'un type concret. Quelque chose qui peut être un type concret, mais un type défini. Un type défini entièrement. Par exemple, le type any, qui est le super type de tout le type. Okay. Si je tape type of any, j'obtiens data type. C'est un type bien défini. Il n'y a pas de procédure derrière. Any, c'est any. Par contre, complexe n'est pas vraiment un type. C'est plutôt une union itérée des types. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme complexe? On peut avoir complexe de int, par exemple. C'est ce qu'on appelle des nombres complexes gaussiens, hein, donc des nombres de type A plus IB, où A et B sont des entiers. On peut avoir des complexes flottants. Okay. On peut avoir des complexes booléens, par exemple. Okay. Ça a des valeurs assez bizarres. True plus I fois false, par exemple, il n'y a que quatre valeurs pour les complexes booléens possibles, mais c'est un type en soi tout à fait légal. Donc, en réalité, complexe, c'est un type spécial, c'est une union itérée de type. Okay. Allons voir d'autres choses, d'autres types. Alors, nous avons notre A qui est un type. En réalité, A est défini comme une structure. Donc, si je tape ici une question, complexe, qu'est-ce que c'est? Comment c'est défini? C'est une structure qui contient partie réelle, partie imaginaire. Donc, c'est défini comme ça. Okay. Comme un type paramétré par un paramètre réel. Et ce type-là appartient à la famille des types number. Ok, bah là, je vois des messages. Ok, vous allez voir, le cours, Valérie est en train d'enregistrer le cours, donc il n'y a pas de problème. Merci d'être là.
Merci beaucoup.
Ok. Alors, le type complexe est paramétré par un type réel, mais le complexe en soi est un nombre. Donc, en principe, toutes les fonctions qui prennent les variables de type number doivent prendre les complexes. Donc, si vous voulez créer une fonction qui marche pour des complexes, faites cette fonction accepter le type number et normalement, ça marchera automatiquement pour des complexes. Sauf si il y a des besoins spéciaux, il faut ajuster le comportement de la fonction comme vous avez vu sur le cours sur la fonction abs, par exemple. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? En soi, complexe est défini comme une structure. Une structure a des champs et dans Julia, contrairement à C ou C++, nous n'avons pas de modificateur d'accès. Donc, nous n'avons pas de restriction pour accéder à des champs. Okay, c'est une question récurrente qui compose tout le temps dans le site discours.julielang.org. C'est un forum de discussion. Donc, je vais taper le lien ici, discours.julielang.org. Ok. C'est bien ça, je n'ai pas fait de faute de frappe. C'est discours. Non, c'est discours. Discours. Ok, pas de souci. Donc, si vous avez besoin de vous absenter, ça n'a pas besoin de me prévenir. Hein. Donc, on peut rester avec lang.org. Voilà, c'est ça le site. Il y a plusieurs sous-forums. Il y a un forum pour des novices absolus, pour le First Step in Julia. Vous allez sans doute trouver des réponses à vos interrogations aussi sur ce site. Et donc, cette question est régulièrement posée. Pourquoi est-ce que dans Julia, il n'y a pas de private protected, etc., etc.? Alors, le problème, c'est un peu l'inertie de la pensée que le paradigme de programmation orientée objet a pris tellement de temps à s'installer dans les cerveaux qu'on a du mal à le chasser. Et Julia n'est pas du tout un langage orienté objet. On peut faire la programmation orientée objet en Julia, mais c'est comme on dit dans un fameux proverbe que the real programmer can write Fortran program in any language. Un vrai programmeur peut écrire un programme Fortran dans n'importe quel langage. Donc, inutile de faire l'approche orientée objet en Julia, mais le syntaxe d'accès au champ de structure est le même qu'avec le langage orienté objet. Donc, je peux par exemple faire a.im, accéder à un champ directement, il n'y a absolument aucun problème. a.array. Alors, en quoi ça ne pose pas de problème d'encapsulation? Bah, tout simplement parce que ma structure n'est pas mutable. Si vous créez une structure tout court avec le mot-clé struct, on verra ça peut-être un peu plus tard, peut-être encore aujourd'hui, par défaut, le type qu'on a créé n'est pas un type mutable. Donc, si je fais par exemple a.re égale 5, ça ne marchera pas. Okay? Immutable struct. Okay. La structure ne peut pas être changée. Il y a donc deux options. C'est un grand schisme entre, dans le système de type de Julia, entre les types mutables et non mutables. Et cette division, un type mutable et non mutable, est peut-être plus importante que toute autre division dans le système de type. Donc, il faut toujours tenir en compte cet aspect de est-ce qu'il s'agit des choses mutables, non mutables. Il y a beaucoup de contraintes qui sont liées avec. Par exemple, si nous utilisons dictionnaire, dans le dictionnaire, les clés ne doivent pas être mutables. On verra ça un peu plus tard, mais pour l'instant, juste sachez ça. OK, donc le type complexe, on l'a vu. Les tableaux. Donc, tout ça, ça a été des types numériques. OK, on peut créer nos propres types numériques, évidemment, les plus sophistiqué possible. Vous avez déjà vu un exemple de type A plus B epsilon pour la dérivation automatique, et ainsi de suite. Donc, toute algèbre est accessible. Oui, dernière chose pour les types numériques, la précision arbitraire, évidemment. Donc, big 2, par exemple. Ça veut donc tout simplement 2. Mais si je fais big de 2 puissance, ça vous donne 2 puissance 10 000 imprécision exacte. D'accord. Vous avez évidemment big float pour représenter des flottants de précision arbitraire. Évidemment, avec par des moyens logiciels, il n'y a pas de coprocesseur qui gère le float de précision arbitraire. OK. Vous avez des types, donc des précisions arbitraires, on les a vues, et vous avez des types numériques assez bizarres qui s'appellent irrational. Donc, par exemple, si je fais type of i, ça vous renvoie un type irrationnel, et vous avez vu une démonstration dans une des vidéos de à quoi ça sert et pourquoi c'est utile. OK. Donc, les types numériques, on les a vus. Les tableaux. Donc, les tableaux, les valeurs littérales pour les tableaux, c'est le syntaxe de MATLAB. Okay. C'est un tableau et le type, bon, je vais affecter ça à une variable pour pouvoir écrire rapidement des choses. Type of A. C'est vecteur de in64 et on écrit alias pour array, machin truc. Donc, le vrai nom de ce type, c'est array paramétré par le paramètre de type et le nombre de dimensions. Alors, c'est une question qui est assez intéressante et ça peut tarauder aussi les esprits des novices. Comment c'est possible de paramétrer les types par d'autres choses que du type. Okay. Je vous invite, cette question vous intéresse, à lire dans les documentations de Julia l'histoire de ce qu'on appelle value types, les types singletons, pour représenter les types qui ont une seule valeur possible et qui correspondent à une valeur numérique avec laquelle le type est construit. Donc, ça vous permet à faire ce type de construction. OK. Donc, les tableaux, la différence des tableaux en Julia et de Si, c'est la convention que les tableaux sont des tableaux colonnes. Bon, en soi, ça ne veut rien dire, hein, ce sont juste des suites, des cases dans la mémoire, mais ça a quelque chose à voir quand on considère des matrices. Pour créer les matrices, on peut utiliser le syntaxe de MATLAB. Raccourci, un espace signifie le passage d'un élément à un élément suivant sur la même ligne, point virgule, le passage à la ligne suivante. Hop, 3, 4. Pour créer une matrice littérale. Okay. Dans cette matrice-là, les indices sont toujours suivis toujours la même convention. Premier indice, c'est le numéro de la ligne, second, le numéro de la colonne, mais les matrices sont stockées dans l'ordre de colonne. Okay? Donc, cet aspect, donc l'affichage des vecteurs, vous affichez des vecteurs colonnes, vous rappelle que les colonnes, ce sont des choses plus importantes. Donc, l'ordre de stockage, c'est 1, 3, 2, 4. C'est comme ça que la matrice est stockée. Alors, ce stockage, normalement, ce n'est pas une question d'importance, mais ça peut devenir important quand vous accédez à une matrice dans une boucle très, très serrée, là où la localité spatiale peut être importante. Okay? Dans ce cas, il faut plutôt faire la boucle le long des colonnes. Mais ça, c'est la façon comment Fortran fait les choses. Alors, dans les tableaux, les indices commencent par 0. 1, 1, 1, c'est 1, 2, 1, c'est 3, etc. D'accord ? Pas comme dans le langage C, pas comme dans Python. Et chez de nombreuses personnes qui commencent à apprendre que Julia existe, bizarrement, ça peut poser un problème. Donc, il y en a beaucoup qui sont butés sur cet aspect que les indices commencent par 0. Mais c'est vraiment une question un peu religieuse. C'est vrai qu'avec les indices qui commencent par... les indices commencent par 1 dans Julia. C'est vrai qu'avec les indices commençant par 0, certaines formules d'itération par des matrices dimension 2, dimension 3, etc., deviennent plus simples. Okay? On n'avait pas besoin de soustraire et ajouter 1 de partout. Okay? Mais il y a d'autres choses qui sont bizarres avec les indices qui commencent par 0. Donc, en réalité, il n'y a pas vraiment de problème avec ça. Et surtout qu'en Julia, vous avez des types spéciaux qui s'appellent offset arrays qui vous permettent d'avoir des tableaux avec des indices quelconques. Par exemple, les tableaux indexés par des indices entre moins 10 et 10. On peut être amené à représenter les données sous ces formes, naturellement. Par exemple, on veut représenter les données sur un plan dans un système cartésien des coordonnées, les données sur un réseau entier sur une partie d'un plan, partir patch rectangulaire autour de 0, vous pouvez très naturellement intégrer ce décalage dans le type et avoir un tableau qu'on appelle offset array avec indexable à partir des nombres, en utilisant des nombres négatifs. Donc, moi, je trouve qu'avec offset array, ce problème d'indexation à partir de 0 est résolu. OK. Alors, les tableaux sont typés. Donc, vous avez vu, ils sont typés par le type. On peut avoir des tableaux non typés. Les tableaux non typés, les tableaux de type typés par de type abstrait, par exemple, qu'est-ce qui va se passer si je fais un tableau A qui contient des types communs. Il faut, okay, on va faire des types qui n'ont pas de dénominateur commun, par exemple 1 et une chaîne de caractères. Alors, quel sera le résultat? Est-ce que quelqu'un peut prédire quel sera le type de A si je sais faire ça? Est-ce que Julie va accepter ça? Est-ce que ça sera une erreur? Et s'il accepte, quel type de tableau ça va créer? On va voir si vous, vous avez déjà fait vos recherches sur Julia. Alors, comment Julia raisonne? Oui, c'est bien. Oui, André, c'est bien le type Any. Je vois ta réponse. Est-ce que hop, Julia Language Extension crashed. Yes, always. Il faudra que je relance l'extension. Je ne sais pas si le rep est parti. Non, ce n'est pas une erreur. C'est pas une erreur. Merci pour le commentaire. C'est la bonne réponse. Ça va créer un tableau, un vecteur de paramétré de type Any. Et le raisonnement est le suivant. Donc, Julia essaie toujours à donner un sens à une expression. Donc, comment cette expression peut être faite? Donc, le travail est fait au moment quand Julia évalue ce qui se trouve à droite de l'opérateur d'affectation. OK. Donc, accept. OK. Julia calcule, crée la valeur au moment d'interpréter ce qui est dans les crochets. Donc, il voit que c'est un tableau. Donc, il essaie de construire un tableau. Pour ça, on parcourt tous les types littéraux qui sont toutes les valeurs littérales qui sont dans ce tableau, ils cherchent un type commun. Donc ce type commun, c'est l'opérateur qui s'appelle type join le type commun de 1 et de coucou, c'est le type any parce qu'il n'y a pas il y a aucun trait commun entre une chaîne de caractères et de 1 sauf que ce sont des valeurs de Julia. Donc voilà ce que ça donne. C'est un élément, un vecteur de type any. Okay. Donc, type join, si je fais type join de deux types, int string, ça me fait any. OK, essayons autrement. Je vais faire un type join entre int et float 64. Ça fait real. Bien. Essayons maintenant une expression suivante. 2 et 3,14. Quel sera le type de A dans cette expression? Est-ce que ça sera un tableau de real ou autre chose? Ça paraît être une bonne réponse. Mais allons voir, est-ce que c'est vraiment une bonne réponse? Est-ce que quelqu'un sait ce qui se passe ici?
Oui, il a converti le 2 en float, oui. Mais je ne sais pas pourquoi.
Il a converti 2 en float, oui, c'est ce qu'on appelle la promotion. Tout à fait. Donc, en fait, c'est l'ordre des choses. Dans la création d'un tableau à partir de valeurs littérales est la suivante. En première intention, on essaie on fait les promotions. Donc, il y a des règles de promotion qui sont déléguées par la fonction qui s'appelle promote, qui sont faites par la fonction qui s'appelle promote. Et donc, si je tape un point d'interrogation, la fonction s'appelle promote. Et c'est une fonction qui prend un ensemble des arguments. Donc, vous voyez, le syntaxe, c'est ce qu'on appelle la fonction variadique et qui peut prendre un nombre variable d'arguments. On en parlera un peu plus tard. La fonction fait la promotion. Donc, cherche une promotion commune. En soi, elle est applicable à tout type d'argument, mais cette fonction a beaucoup de méthodes. Hein. Donc, il y a des méthodes différentes pour différents types d'arguments. Donc, si je fais methods de promote, il y en a 6 méthodes de base, okay, dans base. Et derrière ces méthodes, on appelle des méthodes de promotion numérique qui vous offrent aussi l'aiguillage dans les types numériques concrètes. Donc, en première intention, on essaie à promouvoir les types dans le tableau. Et ensuite, si la promotion ne marche pas, on cherche un type commun pour représenter tout ce qu'on a pu promouvoir. Donc, pour les types numériques, le résultat, c'est la promotion et c'est ce qui se passe tout naturellement. D'accord ? OK. Pourquoi le type commun n'est il pas array OK. Pourquoi est-ce que oui, OK. Pourquoi on ne crée pas un nouveau type? Voilà, c'est une bonne question. Donc type join, c'est l'opération qui marche pour le système de type existant. OK. Bon, c'est une très bonne question. Donc allons voir le type int, est-ce que c'est un sous-type de Riol? Vous vous rappelez que, je vais vous rappeler ce résultat qu'on a vu tout à l'heure, que la jointure de deux types entier et float64 est un type Riol. Donc int est bien un sous-type de Riol. Donc, cet opérateur-là, inférieur de points, c'est un opérateur de comparaison de type. C'est bien true. Et float64 est aussi un sous-type de real. Mais il existe une autre façon de créer un type commun pour les deux. C'est ce qu'on appelle union de type int float64. Et c'est vrai pour int et pour float64. Okay. Mais pourquoi est-ce que donc on a choisi la jointure de type et pas cette union qui est vraiment un type le plus petit possible qui englobe int et float64? Ben, la raison est que cette union n'existe pas dans le système de type. Donc, c'est un type qu'on peut créer à partir de int float64, mais ce n'est pas un type existant dans l'environnement. Donc, on préfère toujours les types existants. Je crois que on pouvait redéfinir donc la notion de jointure en donnant des alias pour ces unions. Mais bon, là, je ne suis pas sûr. Donc, je ne pense pas que ça marchera. Donc, la jointure se fait sur les types standards. Hein, donc, c'est ça la règle. Je ne suis pas 100% sûr de la réponse. Il faut que je fasse la recherche. Merci, André, pour la question. Voilà, donc, tu as essayé un alias. Voilà, ça ne marchait pas. Donc, OK. L'histoire de promotion et de jointure de type, on les a vus pour les tableaux. Bon, on va faire rapidement un tour de types qui sont utiles pour la programmation Julia. Autre type important, les tableaux associatifs. Alors, avant de parler de tableaux associatifs, on va parler des couples. Donc, les couples, les chirales, sont donné par les syntaxes suivants. Donc, le premier élément de couple, par exemple une chaîne de caractères, une flèche comme ça, égale supérieur, et un autre élément de couple, par exemple un entier. Okay. Alors, si je affecte ça à une variable, cette A inusable, et je tape type of A, c'est un type spécial, un type qui s'appelle pair, qui est tout simplement une structure, une toute première toute structure de qui contient de valeurs. Et je crois que pour la structure, l'accès aux éléments de structure, c'est avec les crochets, pareil que pour les tableaux. Alors, le type de pair sont utilisés pour définir les dictionnaires. Donc, dictionnaires sont des chaînes de caractères. Dictionnaires, ce sont des tableaux associatifs qui associent à l'ensemble des clés, à chaque clé, une valeur. Donc, comment faire ? Disons, prenons notre même A et on va créer un dictionnaire. Dict. Alors, là, on va passer un certain nombre des couples. Par exemple, 100. On va créer un dictionnaire avec, pour l'instant, une seule entrée. Alors, les dictionnaires sont des objets typés, vous voyez bien, ils sont typés par deux types, le type de la clé et le type de la valeur. Okay. Maintenant, comme j'ai mon dictionnaire typé, qu'est-ce que je vais faire? Je peux ajouter un élément. Hello. 0. Alors là, maintenant, A contient deux entrées. Alors, à quoi peuvent servir les dictionnaires? Essentiellement, pour représenter des structures qui ne sont pas naturellement indexables par des entiers. Okay. Donc, il y a un cas qui est, disons, intermédiaire un peu entre les dictionnaires et les tableaux denses, les tableaux épars. C'est le cas des données qui sont représentées dans des valeurs numériques qui sont indexées par l'ensemble des indices entiers, mais dont pas toutes les combinaisons sont réellement réalisables. Okay. Mais il y a des cas quand vous ne pouvez pas du tout donner la structure à vos indices. Donc les tableaux épars, c'est pas ce qu'il faut faire, c'est les dictionnaires. Et les dictionnaires dans Julia sont réalisés comme des tableaux de hachage, donc avec la fonction de hachage derrière. Cet détail que les dictionnaires sont réalisés comme des tableaux de hachage nous interdit d'utiliser les valeurs mutables comme des clés. Tout simplement parce que dans ce cas-là, pour des valeurs mutables, les fonctions de hachage sont calculées sur l'adresse de la variable, pas sur la valeur représentée par la variable. Une exception à cette règle sont les tableaux de hachage indexés par des tableaux numériques. C'est acceptable, les tableaux numériques, la fonction de hachage est évoluée sur les valeurs dans les cases et pas sur l'adresse, mais ça ne marche pas déjà pour les tableaux de tableaux. Donc, juste pour être sur le bon côté des choses, pour être sûr, il faut que le type qui représente la clé d'un dictionnaire soit un type non mutable. Donc, c'est juste une règle de bon sens. OK, donc ces structures-là, tableau, dictionnaire, représentent des structures données déjà présentes dans la bibliothèque de base de Julia, la bibliothèque standard. On peut avoir des collections plus compliquées, par exemple des queues de priorité, des arbres, etc. Mais ces structures sont accessibles avec des systèmes de pactage. Donc, vous avez déjà compris que Julia est basé sur le cœur de langage, qui est assez, assez restreint, mais quand même contient pas mal de choses, et des systèmes de pactage qui gravitent autour. Et certains pactages sont tellement importants qu'ils sont presque devenus partie de bibliothèque standard. utilisé presque toujours comme linear algebra, par exemple. Certains sont plus distants. Donc, c'est cet univers des pactages qui fait vivre la machinerie Julia. Donc dict, ça, c'est quelque chose qui se trouve dans la bibliothèque standard déjà. OK. Alors, on va continuer notre tour de type. Avec un autre type. Donc, on a vu le couple, on a vu le dictionnaire. Un autre type qui est le tuple. 1 égale 1, 2, 3, comme ça, dans les parenthèses. Alors, qu'est-ce que c'est que le type de A? C'est un tuple. C'est un tuple. Et un tuple est un type paramétrique, mais c'est un type paramétrique assez exceptionnel. C'est pas un type numérique comme les autres, parce que la destination des tuples est de représenter les arguments d'une fonction. Donc, si vous vous demandez à quoi sert un tuple, c'est une représentation de l'ensemble d'arguments d'une fonction. Alors, ça a des conséquences. Ça a des conséquences en ce que s'appelle la covariance ou contravariance de type par rapport à paramètres de type. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette thématique, mais allons voir ça un exemple suivant. Disons, j'ai un type int, comme on a vu, un type int est un type plus concret que le type real, n'est-ce pas? Je vous pose la question, vector de int. Quel est le rapport entre vector de int et vector de real? Alors, est-ce que vecteur de int est un type plus concret que le type de vecteur de real? Faites attention à cette question, c'est très important pour comprendre l'histoire des types paramétrés. Est-ce que quelqu'un a une idée? Est-ce que la réponse sera vraie ou faux? Est-ce que quelqu'un a une idée? Ok, il y a toutes les options. Il s'agit d'une différence d'encodage. On peut raisonner de ça de la façon suivante. Le rapport entre les types, c'est pas très loin de ce qu'on a dans la programmation orientée objet. Pas tout à fait la même chose, mais l'idée est pas loin. C'est que quand on dit int est un sous-type de real, on dit que tout ce qui est un int est un nombre réel. C'est le rapport de type être. Donc, un entier est un nombre réel. Est-ce que un tableau des entiers est un tableau des nombres réels? Posé comme ça, la question paraît une évidence. Ça devrait être vrai. N'est-ce pas? Allons voir. C'est faux. C'est faux, et la raison pour cela est ce que les variables de type vecteur de real ou vecteur de int peuvent être accédées à la lecture et à l'écriture. Okay? Donc, si ça serait vrai, si vecteur de int était un vecteur de real, ça veut dire que je pouvais utiliser le vecteur de int dans toutes les circonstances où j'ai besoin d'un vecteur de real, d'un nombre réel. D'accord ? Si j'accède ma variable uniquement en lecture, ça ne pose pas de problème. Il y a une boîte où je mets mon vecteur de real et là, je lis les nombres un par un de ce tableau. Et j'attends à ce que ces nombres soient tous des nombres réels. Au lieu de vecteur de real, je mets un vecteur de int, je sors les nombres un par un, je trouve qu'ils sont tous int, mais ça ne pose pas de problème parce que chaque int est un réel. Donc, quand j'accède à une variable en lecture, il n'y a pas de problème. Le rapport entre les types paramètres et les types paramétrés est ce qu'on appelle le rapport covariant. Ça va dans le même sens que le rapport entité. Mais maintenant, si j'accède mon tableau à l'écriture, donc je prends un tableau, j'essaie de mettre des valeurs. Donc, dans le contexte où normalement j'utilise un tableau de réel, je prends mon tableau des entiers et je commence à y mettre des valeurs. Par exemple, j'essaie à y mettre une valeur flottante. Allons voir, est-ce que c'est possible? Je fais A égale 1, 2, 3. On sait déjà que c'est un tableau des entiers. Et je fais A de 2 égale 3, 14. Marchez pas. Inexact error. Je ne peux pas mettre un flottant dans une case présente qui est destinée pour un entier. Donc, c'est logique. Hein. Pour le cas de l'écriture, le rapport en réalité est inversé. Et dans ce cas-là, on parle de rapport contravariant entre le rapport entre les types paramètres et les types paramétrés. Okay. Donc, dans l'informatique théorique, ce principe est connu sous le nom de principe de Liskov, donc au nom de Barbara Liskov, qui l'a formulé, je crois, la première. C'est un grand principe qui nous dicte que s'il y a un type de données qui est accessible à la lecture et à l'écriture en même temps, il ne doit pas y avoir un rapport entre les types paramétrés. Donc, vecteur de int et vecteur de real sont des types qui n'ont pas de rapport entre eux. Allons voir maintenant cette histoire des tuples. Disons tuple de int, int. Tuple de int, int. Tuple real, real. Alors, si je pose la question, vous pouvez deviner déjà les réponses. Il doit y avoir une différence. Et oui, c'est vrai. Alors, pourquoi dans ce cas on fait une exception à cette règle de Liskov? Parce que les tuples sont destinés uniquement à l'accès à lecture. D'accord? Donc, il faut bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire que l'accès à lecture, parce que les tuples représentent l'ensemble d'arguments d'une fonction. Donc, c'est ça leur destination principale, mais les tuples sont des valeurs non mutables. Par exemple, si je fais un tuple A égale 1, 2, 3, okay. A de 2, c'est 2, mais je ne peux pas écrire A de 2 égale 42, tuple est non mutable, c'est interdit. Hein. Ça s'affiche comme la fonction setIndex n'est pas définie pour des tuples. Donc, on ne peut pas modifier la valeur d'un énième élément d'un tuple. Autre usage de tuples qui peut contredire un peu cette idée que les tuples sont destinés uniquement à la lecture, c'est qu'avec des tuples, on peut retourner plusieurs choses à partir d'une fonction. Un exemple, je vais définir une fonction ici. Function func. Okay. Et là, ça retourne hello. On n'a pas besoin de mot-clé return. On peut le mettre, on peut ne pas le mettre. Si on ne le met pas, c'est la dernière valeur qui est retournée. On n'a pas besoin de mettre le point virgule non plus. Bon, si on n'est pas confortable, on peut toujours mettre return, ça ne change rien. Mais ça marche comme ça. Donc, je fais évoluer cette fonction. Ça me crée func. si je l'exécute, ça me renvoie un tuple. A égale func type of A. Alors, quel sera le type de ce tuple? Est-ce que quelqu'un peut prédire? Vous voyez bien, on a des valeurs hétérogènes. Hello est 42. Quels seront les types de tuples? Ah, André, tu sais toutes les réponses. Alors, laisse le temps de réfléchir. Contrairement aux tableaux qui sont homogènes principalement, donc les tableaux sont paramétrés par un type, les tuples, en principe, acceptent les types quelconques. Donc, ça sera un tuple paramétré de string in64. On peut avoir les tuples d'autant de valeurs quelconques possible, ce qui est naturel pour représenter des arguments d'une fonction. On a besoin d'accepter les types quelconques dans l'ordre quelconque. D'accord? OK. Alors, autre chose sur les tuples. On va essayer de créer un tuple comme ça. Alors, quel sera le type de A? Je ne suis pas sûr de la réponse, mais je crois que ça ne sera pas tuple. Tuple tout court, ça sera une autre chose. On va essayer parce que comme je ne suis pas sûr de réponse, on va voir. Voilà, c'est un autre type. Alors, il y a des situations quand les tuples sont homogènes, tous les types de toutes les variables de tuples sont les mêmes, et souvent ces tuples contiennent beaucoup de valeurs. Donc, ça apparaît souvent. C'est d'ailleurs sur ce mécanisme-là que sont basés les fameux vecteurs statiques, hein, les tableaux, les vecteurs statiques, dont j'en ai fait un cours préenregistré. Pour encadrer ce cas, on a inventé un autre type qui s'appelle n-tuple. Okay. Et donc, c'est n-tuple... Pour le nombre faible d'éléments sont réalisés par des tuples ordinaires, mais à partir d'un certain nombre d'éléments dans le tuple, on utilise juste un tuple paramétré, hein, un nombre de types et le type qui est là. Mais dans ce cas-là, oui, c'est forcément homogène. Okay? Donc, ça, essentiellement, l'intérêt de création de ce type spécialisé, paramétré par deux paramètres, c'est le raccourci. Hein. Si on a besoin de représenter une dizaine de valeurs entières, bah, on fait une n-tuple de 10. Okay. Alors, pour les types, on a vu les complexes, on a vu des tuples, des dictionnaires, des tableaux. On peut définir les types... nous-mêmes. Par exemple, struct point. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ici? X, Y, and. Alors, est-ce que ça marche comme ça? Là, je préfère le mettre dans les lignes à part. Non, ça c'est pas VI. On va juste évoluer ça. Et ça nous crée une structure point. Donc type of point data type. Alors, quelles peuvent être les valeurs de XY? Donc il n'y a aucune information sur le type ici. Ils peuvent, en principe, être des valeurs quelconques. Je peux faire point 2, 3. Okay. Je peux faire ça. Ça marche. pourquoi ces points? Alors, est-ce que si je veux restreindre ça à des types concrets, est-ce possible? Ben, on peut le faire. On peut donner une instruction complète de type. Par exemple, int. Et faire ça. Alors, je ne suis pas sûr que ça marchera parce que c'est une redéfinition d'une constante. Non, je ne peux pas redéfinir une constante. Il faut relancer la session de REPL. Okay. Donc, je relance REPL pour redéfinir une structure. Okay. Donc là maintenant, un point p égale point 2, 3, ça marche. C'est un point 2, 3. Mais si je fais autre chose, ça ne marche pas. Parce qu'il y a une restriction sur le type. Alors, on peut faire la programmation dans ce style-là. On verrouille complètement les types. On dit on va travailler avec les points qui sont des floats 64 ou des entiers ou des coordonnées qui sont de type bien défini. Et ça marche. C'est comme un vrai programmeur qui peut écrire le programme en Fortran en tout langage. On peut programmer en Julia comme en C++ en verrouillant complètement des types. Mais ce n'est pas ça l'esprit de Julia. Donc si on veut restreindre les types, autant de donner des contraintes raisonnables. On peut utiliser des types abstraits pour représenter des valeurs. Okay. Bon, alors, de nouveau, il faut rafraîchir le REPL. Je ne sais pas si on peut le faire autrement. Mais les constantes dans l'espace global, on ne peut pas redéfinir comme ça. Ok. On reprend cette définition. Pour la structure point, on pouvait donner un autre nom. Et là, on peut faire point 2, 1, 2. On peut faire point 2, 1, 3, 2, 34. Mais on ne peut pas faire point de ça plus de im, par exemple. Okay? Parce que ce n'est pas réel. On ne peut pas construire un réel à partir d'un complexe. D'accord? Okay? Voilà. Alors, quel est l'intérêt de cette définition polymorphe de point? Parce que l'intérêt est que en écrivant ce code une fois, si toutes les fonctions de manipulation de ce point qu'on écrit sont applicables à tous les types réels automatiquement. Si on prend le soin de ne pas surspécialiser notre code, le résultat sera que ce point sera utilisable immédiatement avec n'importe quel type des coordonnées, avec des réels, des imaginaires, avec des flottants, des entiers, des booléens, etc. Booléen, ça marche aussi parce que booléen est un type réel. True, false. C'est un coin dans un carré booléen, hein, donc un ensemble de quatre points. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire mieux en définissant des structures? On peut raisonnablement demander que les deux variables soient de même type. Actuellement, ce n'est pas le cas. Je peux créer un point, disons, je peux créer un point, je vais attacher à la variable p, avec des valeurs 1, 3, 14. Alors, type of p, ça sera tout simplement point, okay, mais type of p point x, c'est int, type of p point y, c'est float 64. Ça peut ne pas être un problème. On peut avoir des points qui ont de type hétérogène, hein, sauf que si, par exemple, on veut implémenter des opérations de permutation des axes ou des rotations, les variables changent de type, ça peut ne pas être bon. Et ça peut aussi limiter la performance de notre code, parce que si on fait des opérations qui impliquent à la fois x et y, les types ne sont pas connus, Julia sera obligée de générer le code assez compliqué pour faire l'aiguillage nécessaire. Donc, pour résoudre ce type de problème, on crée le type paramétrique avec un type paramètre, un type inconnu, et on peut imposer ce type pour les deux variables simultanément. Okay. Bon, alors, ça sera peut-être la dernière chose que je vais faire avant de conclure et donner des exercices à faire. Alors, essayons de faire ça. Et ensuite, les structures mutables, ça ne sera pas pour aujourd'hui. Donc, on relance. Alors, on va paramétrer ça par un type T. Je crois que c'est ça le syntaxe. Et on impose que les deux variables soient de même type et aussi que ce type-là soit plus petit que réel. Bon, espérons que je n'ai pas fait des erreurs. Hop, invalid type signature. Non, c'est pas comme ça. C'est ici que je devrais avoir les conditions. Je vais être fatigué. Hop. Voilà. OK. Alors là maintenant, qu'est-ce qui va se passer si je fais mon point? Point 1, 2, ça marche. Je fais 1, 4, 2, 5, ça marche, mais si je fais 1 et 2, 5, méthode erreur. Okay. Bon, ça, on peut dire que c'est acceptable parce que c'est justement ce qu'on a voulu. Okay. On peut dire que ce n'est pas acceptable parce que je ne veux pas que l'utilisateur de mon code voit ces messages d'erreur qui sont cryptiques pour lui. Alors, il faut lui aider. Et alors, quelle sera l'action naturelle dans ce cas? L'action naturelle, ça sera d'utiliser la promotion. Donc, on devrait ajuster les arguments lors de la création d'un point, on devait ajuster les arguments, effectuer la promotion, trouver le type commun le plus petit qui peut représenter les deux arguments. Okay, donc, faire promote de int 64. Donc des types actuels et je crois qu'il faut faire mettre un tuple pour que ça marche. Non, bon, je me rappelle pas le syntaxe tout de suite. Excusez-moi, il faut que je me concentre. Donc, il faut faire la promotion pour le type, pour calculer le type commun et créer le point avec le type commun. Et une fois engagé sur ce chemin, on est déjà bien parti dans le développement des bibliothèques Julia. Donc, quand vous créez les types comme ça, génériques, bien faits, vous êtes sur le bon chemin de développement de code Julia. Bon. Je crois qu'on a vu un peu l'avant-goût de ce que c'est que Julia. Et bon, il nous reste 7 minutes. Je voulais vous proposer un exercice à faire pour la prochaine séance. Donc, en fait, je pensais à deux choses à vous demander à faire. Ce n'est pas vraiment obligatoire, mais ça peut vous guider un peu et là on discutera le résultat et on pourra comparer les solutions de chacun. Donc l'exercice que j'avais en vue consiste à résoudre ce qu'on appelle le problème de trois corps, le problème pythagorien de trois corps. Donc, ça s'appelle OP. Je devais changer le partage d'écran. Excusez-moi. Donc là, c'était le VS Code qui était partagé. Je change le partage. De XOR.tp. OK. Voilà. Donc, l'exercice que je voulais vous proposer, c'est Pythagorean 3-body problem. OK. Brièvement, vous pouvez retrouver, c'est un fameux problème de trois corps en trois dimensions. Brièvement, il s'agit des trois corps dans les sommets d'un triangle pythagorien de longueur des côtés 4, 3. Hop. Et 5. OK. Et avec les masses 5, 3 et 4. Donc tout se passe sur le plan, parce que si les trois masses sont dans un plan immobile, et ces masses subissent le champ gravitationnel de deux autres masses, et vont rester dans un plan, donc le problème planaire restera planaire. Et nous avons la loi de Newton, la force exercée sur une masse MI, donc force IM, c'est la somme de J n'est pas égal à I, de quoi M, I, M, J divisé par distance au carré. Okay. C'est la valeur absolue de la force et la destination, tout le monde sait ce que c'est. Okay, donc là, il devait y avoir le vecteur N, I, J, comme ça, parce que c'est la somme vectorielle. Donc, ça, c'est la loi de Newton 1,3D. Et sous l'action de ces forces, ces masses commencent à évoluer. Donc, la constante gravitationnelle est égale à 1. C'est le problème donc sans dimension. L'avantage que c'est bien posé, et c'était un problème difficile pour l'analyse numérique parce que, comme il s'avère lors de l'analyse numérique par des moyens modernes, comme il s'avère, les masses s'approchent les uns des autres à une distance très faible de l'ordre de 10 puissance moins 4. Donc, il y a presque collision entre ces étoiles. Et ce qui est connu, à partir de temps passant 55-60, les deux masses plus lourdes, donc 4 et 5, forment un système binaire. Et la troisième masse est projetée dans l'espace. Donc, c'est ça le résultat de solution. C'est très difficile à obtenir avec les moyens, comment dirais-je, communs, en faisant l'intégration à la main. L'exercice, essentiellement, sera d'utiliser les packages de Julia. Donc, je n'ai pas expliqué encore comment faire des packages, mais vous trouverez plein d'informations dans les documentations de Julia. Donc, ça sera un peu un exercice de notation, on vous jette dans l'eau et on vous laisse nager. Donc le package correspondant s'appelle Differential Equations.gl. Donc, pour voir l'information, vous tapez tout simplement ça dans le Google. Ça va vous sortir déjà la page des documents. pour ce differential equation. Donc là, le but, c'est pas tellement de résoudre le problème, mais le faire de façon le plus élégant, plus julianesque possible. Okay? Il y a multiples façons de le faire. Essayer d'aborder ça, c'est un problème. L'avantage, c'est que ça fait partie de culture G à peu près tout le monde, problème pythagorien de trois corps, assez générique. Ben, je ne pouvais pas penser d'autres choses comme exercice. Et à la séance prochaine, on va commencer par regarder les solutions. Je vais présenter ce que j'ai pu faire et vous présenter les vôtres si vous essayez de le faire. Sinon, autre idée d'exercice que j'avais, sans doute vous avez vos propres problèmes de recherche, pas en totalité, mais peut-être des petits bouts qui peuvent être formulés en Julien. Essayez d'attaquer ça sous l'angle julianesque, vous montrerez ce que ça donne, on verra sur les difficultés sur lesquelles on bute, etc. D'accord ? Donc, voilà ce que je vous propose pour la semaine. Il y aura d'autres vidéos donc, préenregistrées pour la séance prochaine. Je vais essayer de les préparer plus tôt qu'au dernier moment. Je suis désolé pour le retard. Sinon, c'est tout pour la séance d'aujourd'hui. Avez-vous des questions, des remarques, des suggestions? Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut faire autrement? Je suis à vous. Alors, il y a quelqu'un?
Moi déjà, je voudrais... Non, tu n'as pas perdu tout le monde. Moi déjà, je voudrais vraiment te remercier. Parce que c'est vraiment bien préparé. Et j'encourage les autres participants à dire s'ils ont des suggestions d'amélioration, s'ils ont des remarques, parce que c'est très difficile d'être tout seul en Zoom.
Absolument. Mais moi, je pense que ça serait mieux que nos cours sera centré sur... sur des exercices déjà. Donc, dans la première séance, j'ai dû évidemment mentionner des choses théoriques, mais j'aimerais bien de voir votre code. Donc, comment vous codez, et comme ça, on pourra peut-être améliorer chacun nos styles. D'accord ? Donc, avec l'idée de coder des choses de façon julianesque, vraiment. Spécifique à ce langage, parce que enfin, comme un langage de programmation universel, on peut faire n'importe quoi de n'importe quelle façon. Hein. On peut coder une machine de Turing et le recoder à un autre langage. Voilà.